Vous écoutez, on lit pour vous.
Des jeunes aux prises avec une psychose, désormais très malades. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 2 décembre 2024 dans Le Devoir. Une clinique montréalaise qui soigne des adultes de 18 à 35 ans ayant fait une première psychose a vu le nombre de ses nouveaux usagers pratiquement doubler en 8 ans. Davantage de patients qui y sont admis sont désormais en situation d'itinérance et plusieurs d'entre eux sont très malades, souligne la docteure Amal Abdel-Baki, qui est la chef médicale du centre. Il est difficile de dire si l'augmentation du nombre de nouveaux usagers signifie que les jeunes adultes font maintenant plus de psychoses qu'avant, soutient celle qui est psychiatre à la clinique JAP, jeunes adultes ayant eu un premier épisode psychotique. Mais depuis la pandémie de COVID-19, on voit vraiment des jeunes qui souffrent de maladies plus sévères. Ce sont des gens qui n'ont pas été détectés tôt parce qu'ils n'étaient plus dans les organismes durant la crise sanitaire, précise-t-elle. À l'époque, plusieurs ressources manquaient de place, car elles avaient dû fermer des lits pour maintenir une distanciation physique entre les usagers, rappelle-t-elle. Certaines personnes arrivent donc à la clinique en étant malades depuis déjà plusieurs mois, voire des années, ce qui était moins fréquent auparavant, relève-t-elle. Chaque semaine où les gens ne sont pas traités, ça assombrit leur pronostic d'évolution, souligne la médecin, rencontrée dans son bureau orné d'œuvres d'art de ses patients. Située au cœur du centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, la clinique JAP soigne chaque année en tout environ 300 jeunes qui ont fait un premier épisode psychotique. Ces personnes peuvent bénéficier d'un suivi d'une durée de 3 ans dans ce centre, qui est l'un des plus grands du genre dans la province. Fondée en 1999, la clinique a vu le nombre de ses nouveaux patients augmenter au cours des dernières années. Il est passé de 66 en 2015 à 126 en 2023. Au cours de cette dernière année, 35 des 126 usagers nouvellement accueillis étaient itinérants. En comparaison, ils étaient seulement une quinzaine dans cette situation avant 2018. Le total de patients était toutefois moins grand à l'époque. Selon la médecin, la croissance du nombre d'usagers pourrait en partie être due à la participation de la clinique au programme Access Esprit Ouvert, de 2016 à 2020. Le but du projet de recherche était de détecter des jeunes souffrant de troubles mentaux en général, dont la psychose, au sein d'organismes communautaires qui travaillent en itinérance jeunesse. Même après 2020, les organismes communautaires ont continué de signaler à la clinique JAP des cas de jeunes adultes itinérants ayant fait une première psychose, affirme la médecin. La docteure Amal Abdel-Baki ajoute qu'il est désormais plus complexe et ardu de sortir de l'itinérance en raison de la crise du logement. Cela perpétue la maladie mentale, tout comme le fait que des gens acceptent des situations d'insalubrité de logement qui sont extrêmes pour ne pas se retrouver sans logis, dit-elle. Cela cause un stress élevé. Des drogues qui font des ravages. À l'heure actuelle, la moitié des jeunes qui arrivent à la clinique JAP sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie grave, observe la docteure Amal Abdel-Baki. Cette toxicomanie est souvent entretenue par le fait qu'ils ont trop de stress, car l'itinérance est un stresseur extrême, ou qu'ils essaient de composer avec la maladie. Certaines drogues, comme le crystal meth, méthamphétamine, font présentement des ravages, relève la psychiatre. C'est très difficile d'aider les gens qui ont cette dépendance. Gabriel Julien, qui a été patient à la clinique jusqu'en 2015-2016 pour ensuite y devenir père aidant en 2022, remarque lui aussi que le sujet de la drogue prend désormais davantage de place dans les suivis de groupe ou individuels qu'il fait auprès des jeunes. Blagueur et charismatique, il devient sérieux en abordant la question des substances qui circulent à l'heure actuelle sur le territoire. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans la rue présentement. Malheureusement, il y a des surdoses qui peuvent se produire, affirme l'homme de 41 ans aux yeux bleus perçants. Or, la clinique manque de financement pour embaucher suffisamment de personnel pour répondre aux problèmes complexes des jeunes, soutient la docteure Abdel Baki. Cela fait que, souvent, on n'est pas en mesure de donner l'intensité requise des services ou que le personnel s'épuise. Donc, soit on s'épuise moins et on donne les services qu'on peut, soit les gens se démènent parce qu'ils trouvent que les patients sont trop mal pris. Mais à un moment donné, il y a des gens qui se brûlent, déplore-t-elle. Le fait qu'il n'existe pas de liste d'attente à la clinique JAP est un autre défi, poursuit la médecin. Normalement, on répond aux demandes dans un délai de 24 à 72 heures. Donc, s'il y a davantage de demandes, ça veut dire qu'il faut qu'on en fasse plus. Mais il faut faire attention à nos équipes. Investir en santé mentale et ailleurs. En 20 ans de pratique, la docteure Amal Abdel Baki affirme toutefois n'avoir jamais vu autant de vagues d'investissements gouvernementaux en santé mentale qu'à l'heure actuelle. Sur le terrain, on voit que cela porte ses fruits. La psychiatre estime cependant qu'en raison des besoins qui sont grands, il reste encore beaucoup à faire en matière d'investissement dans ce domaine. Il ne faudrait surtout pas qu'on ait l'impression que tout est beau, qu'on a investi et que tout est correct, poursuit-elle. Pour améliorer la santé mentale des jeunes, Québec doit financer davantage de mesures sociales, fait valoir la docteure Abdel Baki. Les hausses des loyers sont tellement importantes qu'on a besoin de plus de logements sociaux en conséquence. Appelé à réagir, le ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, souligne que l'un des volets du plan d'action interministériel en santé mentale vise à poursuivre le déploiement au Québec des programmes pour premier épisode psychotique, PPEP, comme celui de la clinique JAP. Le MSSS est bien au fait que le nombre de jeunes suivis au PPEP est en croissance depuis quelques années et que certaines équipes ont atteint leur capacité d'accueil maximale. Du soutien leur est fourni par Santé Québec afin de les aider à faire face à ces défis. Le besoin de financement supplémentaire a été déposé au ministère, mais il n'est pas possible de s'avancer davantage pour l'instant. Quant aux mesures sociales, le MSSS soutient que le plan d'action interministériel en itinérance a accordé beaucoup d'importance au rehaussement des équipes de stabilité résidentielle en accompagnement, ainsi qu'au partenariat avec la Société d'habitation du Québec pour déployer des unités de supplément au loyer pour les personnes en situation d'itinérance et les jeunes en provenance des hébergements jeunesse. C'était Des jeunes aux prises avec une psychose, désormais très malades. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 2 décembre 2024 dans Le Devoir.
Plus d'appui nécessaire pour l'intégration des enseignants d'Afrique subsaharienne, un texte de Jean-Marie Takouleux, paru le 8 novembre 2024 dans Le Franco. La francophonie canadienne compte sur l'immigration pour pallier la pénurie de personnel enseignant dans ses écoles. Mais l'intégration des nouveaux arrivants au système canadien demeure un défi, comme recensé auprès de travailleurs en provenance d'Afrique subsaharienne. Les nouveaux arrivants originaires des pays africains sont nombreux à choisir l'Ontario ces dernières années. C'est le cas de Florian Abba. Le nom a été modifié pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Il a immigré en mars 2022 avec sa famille à Ottawa. Aujourd'hui enseignant au sein d'un conseil scolaire de la capitale fédérale, Florian décrit un parcours parsemé d'embûches. Il cite les qualifications et l'expérience professionnelle qui peuvent ne pas être reconnus immédiatement. C'est d'ailleurs le 10 septembre dernier seulement que j'ai intégré l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario au EEO, après de nombreux mois de traitement de mon dossier, appuie-t-il. Avant de se présenter devant l'Ordre, Florian a étudié pendant près de 2 années à temps plein à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, même s'il avait enseigné pendant 20 ans en Afrique. Le retour aux études reste d'ailleurs souvent un passage obligé pour les nouveaux arrivants, selon ce qu'a pu constater la chercheuse et professeure au Collège Boréal, Yolande Douémé-Pita. Elle estime que cette situation découle souvent des difficultés pour obtenir les documents officiels en provenance de leur pays d'origine après tant d'années d'études, respecter les exigences dans les documents officiels initiaux, traduire les documents, réussir les tests de langue particulièrement difficiles. Enseigner le français en situation minoritaire. Yolande Douémé-Pita, qui est également directrice du programme des travailleuses et des travailleurs d'établissements dans les écoles au sein du Centre ontarien de prévention des agressions, a identifié, dans le cadre de ses travaux, des professionnels qui partent du Québec pour enseigner en Ontario. En contexte minoritaire, ces enseignants pensent pouvoir trouver plus facilement du travail dans les écoles francophones de la province, car ils connaissent la langue et sont au fait de la pénurie de personnel enseignant. Florian explique par contre qu'il a dû s'adapter au français parlé au Canada, qui présente quelques différences par rapport à la langue parlée au Cameroun. Pour améliorer la fluidité linguistique, j'ai dû participer à des cours de langue et la pratiquer régulièrement avec des locuteurs natifs canadiens, explique l'enseignant. L'enseignant a aussi découvert qu'en Ontario, il faut avoir des connaissances en anglais afin d'échanger avec les parents d'élèves qui jouent un rôle important dans le système éducatif du pays. Mais le plus grand défi de Florian a véritablement été l'utilisation des technologies éducatives. Le rôle de la technologie s'est accru avec la pandémie de COVID-19 et les confinements qui s'en sont suivis, avec la nécessité de poursuivre l'enseignement à distance. Favoriser l'inclusion des enseignants immigrés. Pour Yolande Douémé-Pita, un meilleur accompagnement des professionnels formés à l'étranger et qui souhaitent s'insérer dans le système éducatif canadien est essentiel. Il incombe toutefois aux nouveaux arrivants de bien s'informer avant d'immigrer et, une fois sur le territoire, de se renseigner avant de changer de profession. La chercheuse estime que les directions d'école ont également une responsabilité liée au nécessaire rapprochement entre les anciens et les nouveaux enseignants afin de combattre les préjugés qui pèsent sur les immigrants. Par exemple, les nouveaux enseignants peuvent intégrer les comités de pratique, notamment le comité d'apprentissage à l'école, pour bénéficier de l'expérience des enseignants chevronnés. Florian a justement remarqué une certaine fermeture de la part de ses collègues et des conseils scolaires à établir des liens professionnels. « Je me réserve même le droit de parler de racisme », lâche-t-il. Cette responsabilité revient également aux conseils scolaires qui peuvent organiser des formations pour lutter contre les stéréotypes, car les enseignantes formées en Afrique subsaharienne ont beaucoup à apporter, notamment au niveau de la méthodologie, souligne Yolande Douémé-Pita. Les conseils scolaires au front, en Alberta. L'Alberta, qui est aussi confrontée à une pénurie d'enseignants francophones, voit à la mobilisation de ses conseils scolaires pour accompagner l'insertion des professionnels formés à l'étranger, notamment en Afrique subsaharienne. La Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, FCSFA, a lancé dès 2023 la plateforme « Enseigner en Alberta » pour faciliter le recrutement des enseignants dans les écoles de la province. C'est devenu la norme que les enseignants viennent d'ailleurs pour enseigner en Alberta, constate la directrice exécutive de la FCSFA, Gisèle Bourque. afin de faciliter l'insertion des enseignants formés à l'extérieur de la province, le conseil scolaire peut demander au ministère de l'Éducation d'accélérer le processus d'accréditation en contrepartie d'une promesse d'embauche, ajoute-t-elle. Selon elle, les nouveaux enseignants bénéficient également de l'entraide au sein des écoles albertaines. Les enseignants chevronnés d'origine africaine ont développé un mentorat spécial, principalement à Edmonton, pour accompagner les nouveaux arrivants en proposant une sélection de formations nécessaires à l'adaptation au contexte local. C'était « Plus d'appui nécessaire pour l'intégration des enseignants d'Afrique subsaharienne », un texte de Jean-Marie Takouleux, paru le 8 novembre 2024 dans Le Franco.
L'une des clés du succès de Taylor Swift. Un texte de Danick Trottier, paru le 18 novembre 2024 dans La Presse. Danick Trottier est professeur titulaire de musicologie à l'UQAM. Les discussions abondent dans les médias par rapport aux raisons expliquant l'ampleur du succès de Taylor Swift. Par exemple, on peut rappeler qu'à seulement 34 ans, Taylor Swift a, à son actif, 11 albums studio, 6 tournées mondiales, des centaines de prix, et qu'elle fait partie du club select des milliardaires. Ces chiffres donnent le tournis et ne sont que la pointe de l'iceberg quand il s'agit de mettre en perspective les statistiques qui font de sa carrière un cas d'exception dans le vedettariat mondial. Or, il ne faut pas perdre de vue ce qu'est à la base Taylor Swift, à savoir une musicienne ayant gravi les échelons de l'industrie musicale à partir de 2006, avec Nashville comme port d'attache. Ce fait mérite d'être rappelé pour éviter de se perdre en conjectures lorsqu'il s'agit d'expliquer son succès. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on insiste trop sur l'importance de ses prises de position politiques en lien avec les campagnes présidentielles aux États-Unis, ou encore quand on met l'accent sur les Swifties, tout en diminuant la portée musicale de son travail. Autrement dit, il arrive trop souvent que son succès soit rapporté à un phénomène de masse dont l'épicentre se concentrerait dans la communauté formée par ses fans. C'est mal comprendre comment fonctionne le succès en musique populaire et ce qui en nourrit la flamme. Si Taylor Swift domine la pop planétaire des dernières années, c'est aussi par un travail artistique parfaitement huilé. Le fait qu'elle ait produit 11 albums originaux en moins de 18 ans de carrière est un indicateur assez clair de la façon dont elle a pu maintenir un lien fort avec ses fans, en concomitance avec une spirale ascendante que lui a permis le cumul des années. Et la variété de genres musicaux qu'elle a explorés, de la country à la pop, en passant par le folk, l'électropop et le R&B, est aussi un indicateur du potentiel d'attachement que peut créer sa musique. L'art de l'accroche narrative. Mais s'il faut me choisir une dimension du travail de Taylor Swift pour expliquer ses succès, je miserai avant tout sur l'un des carburants les plus puissants en musique populaire depuis les débuts de l'enregistrement, la force du storytelling. Francisé au Québec par le terme « accroche narrative », cette méthode de communication consiste en des moyens visant à accroître l'adhésion du public par rapport à ce qui est énoncé comme contenu, par exemple en mettant en valeur des sentiments comme l'empathie. Souvent évoqué dans des domaines comme la politique, l'accroche narrative n'en reste pas moins un véhicule important de l'expression dans les arts, et particulièrement en musique populaire, quand il s'agit de mettre en récit ses propres expériences et ses émotions. Bref, son vécu. Cette méthode ne fonctionne que dans la mesure où la sincérité du contenu mis en récit fait sens pour le public. Taylor Swift est passée maître dans l'art de transformer l'accroche narrative en acte de sincérité. C'est le cas lorsque ses relations et difficultés amoureuses forment le tissu narratif de ses paroles, l'évocation de ses ex, ou lorsque sa capacité de surmonter l'adversité est placée au cœur de ses chansons. Par exemple, les attaques de Kanye West à son endroit. L'accroche narrative constitue ainsi une recette gagnante rarement vue à ce jour. Et c'est aussi ce qui explique la force d'impact de sa tournée Eras, cette dernière se voulant une mise en récit des différentes époques de sa trajectoire artistique à travers ses 11 albums. Mettre en valeur sa persona et les tubes qui l'ont façonné reste le but ultime. C'est donc bel et bien Taylor Swift qui nourrit cette machine à succès en plaçant les projecteurs sur elle, ou plutôt sur l'exceptionnalité que représenterait la mise en récit de sa vie. Reste à voir si la recette sera tout aussi gagnante dans les années à venir. C'était l'une des clés du succès de Taylor Swift. Un texte de Danick Trottier, paru le 18 novembre 2024 dans La Presse.
Ce qu'il faut savoir pour bien se protéger du froid. Un texte commandité paru le 19 novembre 2024 dans La Presse. Raquettes, ski de fond, planche à neige, patins. La saison hivernale apporte son lot de joie tant et aussi longtemps que le froid ne vient pas jouer les troubles fêtes. Pour en faire durer le plaisir, suivez ces quelques astuces qui vous permettront de bien vous protéger cet hiver. Habillez-vous en couche. Si vous souhaitez apprécier vos sports d'hiver, assurez-vous de bien vous habiller pour ne pas avoir froid. La meilleure stratégie consiste à enfiler plusieurs couches de vêtements techniques. En plus de bien vous garder au sec et au chaud, cette tactique dite « multicouche » a l'avantage de régulariser votre chaleur corporelle en vous amenant à enlever ou ajouter des couches au besoin. La combinaison parfaite? Des sous-vêtements thermiques, en laine mérino ou en polyester bien ajusté, pour vous maintenir au sec en évacuant la transpiration. Un chandail en laine polaire ou une doudoune en duvet ou en matière synthétique pour vous permettre de conserver votre chaleur et un manteau imperméable et respirant pour vous protéger des intempéries telles que le vent et la neige. Choisissez vos vêtements. Épaisseur, matériaux, etc., en fonction des conditions météorologiques et du type d'activité hivernale pratiquée. Mettez l'accent sur vos extrémités. Les mains et les pieds figurent parmi les parties du corps qui sont les plus vulnérables au froid. Pourquoi? Parce que les vaisseaux sanguins des zones périphériques se contractent pour lutter contre le froid, limiter les pertes de chaleur et protéger les organes vitaux, d'où l'intérêt de bien couvrir ses extrémités en portant des mitaines, des chaussettes et des bottes de qualité et adaptées au sport pratiqué. Si vous avez tendance à geler des mains et des pieds, les chauffe-mains et chauffe-pieds peuvent vous procurer du confort, tout comme le font les gants, les semelles et les chaussettes chauffantes à batterie rechargeable. Dans tous les cas, évitez de porter des mitaines, des chaussettes ou des bottes trop serrées, ce qui coupe la circulation sanguine et vous donne plus froid. Couvrez votre tête et protégez votre visage. Par temps froid, les risques d'engelures au nez, aux joues et aux oreilles sont bien réels. De plus, il ne faut pas oublier que la tête génère des pertes thermiques comme les autres parties du corps. Voilà pourquoi vous avez avantage à porter une tuque, en polyester, en laine polaire ou en laine mérino, qui couvre bien la tête et les oreilles pour réduire votre perte de chaleur corporelle générale. Si la température est glaciale, n'hésitez pas à enfiler un cache-cou, un masque ou une cagoule afin de bien protéger votre visage. Enfin, rappelez-vous que la réflexion du soleil sur la neige peut causer un coup de soleil et même entraîner une brûlure de la surface du globe oculaire appelée photokératite. Appliquez donc de la crème solaire à chaque sortie et protégez vos yeux avec des lunettes de soleil de bonne qualité. Buvez et mangez régulièrement. Bien que le froid retarde l'apparition de la sensation de soif, l'hydratation demeure une priorité lorsque vous pratiquez un sport hivernal. Ainsi, essayez de boire quelques gorgées d'eau toutes les 15 ou 20 minutes. Pour éviter que le liquide gèle, remplissez votre gourde d'eau tiède, utilisez un contenant isotherme ou encore placez-le près du corps sous votre manteau. La consommation d'une boisson chaude, chocolat chaud, thé, tisane, bouillon, est aussi recommandée et constitue une bonne façon de vous réchauffer par temps glacial. Si votre activité dure plus d'une heure, consommez également des glucides pour maintenir votre niveau d'énergie. Vous pouvez alors prendre une boisson pour sportifs ou grignoter des aliments riches en glucides comme des fruits séchés, des barres de fruits ou des biscuits aux dattes. Gare aux engelures et à l'hypothermie. Les premiers signes d'une engelure sont une sensation de picotement, d'engourdissement ou de douleur sur la zone affectée. La peau peut également rougir, puis blanchir. Dans ce cas, réchauffez graduellement la région touchée en la couvrant avec vos mains, en la plaçant près de votre corps, sous les aisselles par exemple, en l'enveloppant d'un vêtement chaud ou en l'immergeant dans de l'eau tiède. Les premiers symptômes de l'hypothermie sont des frissons intenses et le claquement des dents. Un trouble d'élocution, un manque de coordination et un état de confusion peuvent suivre. Dès les premiers signes, mettez-vous à l'abri du froid. Enlevez vos vêtements mouillés, couvrez-vous de couvertures et buvez une boisson chaude. En cas d'hypothermie grave, faites un appel au 911 sans tarder. C'était « Ce qu'il faut savoir pour bien se protéger du froid », un texte commandité paru le 19 novembre 2024 dans La Presse.